Dans un premier temps, je vous demandais si vous pouvez vous présenter, qui êtes-vous, votre âge.
Je m'appelle Alexandre Ribeiro Moreira, je suis d'origine brésilienne, où je suis arrivé en Lozère depuis 6 ans. Je suis apiculteur, je me suis formé avec un grand Lozérien qui s'appelle Roland Baudet, qui habite au Bondon. J'ai fait un grand changement de vie à 37 ans. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Donc, ça te dit que j'ai 6 ans dans le coin et j'adore la Lozère parce que mes parents au Brésil étaient des paysans aussi. Moins froid qu'ici, bien évidemment, mais toujours côté paysan, agricole et tout ça. Et là, j'adore, comme j'ai dit encore une fois, la Lozère, les gens alternatifs, les gens qui arrivent de ville comme moi-même ou pas habiter la campagne. Je trouve que c'est très important. Ça réfère et j'adore la Lozère, quoi.
Vous êtes arrivé il y a combien de temps?
6 ans. Je suis arrivé, j'avais 39 ans pour vraiment m'installer, mais je connaissais la Lozère déjà depuis 9 ans, à peu près ça.
Vous êtes lancé dans l'apiculture directement ou?
En fait, ma installation à Lozère, c'était progressivement. J'ai travaillé en ville, j'ai travaillé pour des banquiers, une famille anglaise qui monopolise beaucoup la finance au monde, entre guillemets. Et un jour, j'en avais marre, j'ai voulu trouver un sens à ma vie, encore une fois. Et en revenant en Lozère, j'ai connu encore une fois Roland Baudet, je connais Nicolas Lefebvre, qui beaucoup m'a aidé à m'installer, m'apprendre l'apiculture, m'a appris beaucoup de choses qui ont toujours beaucoup m'aidé dans mon installation. Et peu à peu, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir 10 ruches, 25, 50. J'ai décidé de m'installer, j'ai demandé la DGA, j'ai fait toute l'école apicole, et là, je suis là depuis 6 ans.
Vous avez toutes vos ruches en Lozère ou elles sont placées à divers endroits en France?
J'ai la majorité, c'est comme ça. Je suis dans l'apiculture, je fais l'apiculture transhumante, c'est-à-dire que l'hivernage, j'ai la zone d'Alugard, la vallée de Sèze, on va dire Bessèges, Saint-Ambroise, Barjac. Pour l'hivernage, qui c'est la température, c'est plus clémente en comparaison à la Lozère. Et puis, à partir, on va dire, du 10, 15 mai, je commence à transhumer tout en Lozère. Pour faire le miel de Cosse, le miel de montagne à Finel, de Cévennes au Fond Mort, le châtaignier du côté de Cévennes. Et donc, du coup, je garde pendant la saison en Lozère. Et à partir du 10, 15 septembre, j'ai descendu dans le Gard.
Votre miel, vous le choisissez, c'est-à-dire vous choisissez plus ou moins les fleurs que vont butiner vos abeilles, ou vous les laissez totalement libres
En fait, je sais à peu près les floraisons. C'est-à-dire que normalement, selon les années, le Cosse, ça démarre à partir du 10, 15, 20 mai. Donc, je cible à peu près cette date du que je sois sur le Cosse. Par exemple, le châtaignier, je sais que c'est à partir du 15 et 16 juin, selon les années, bien évidemment. Et du coup, je transhume un peu avant, une semaine, 5 jours avant, qu'il a pu s'abutiner majoritairement les châtaigniers. Et donc, je cible les miellets selon la saison et le temps de floraison.
Votre miel, si on désire l'acheter, le trouver, on peut aller où?
Je vends pour les 3 intermarchés en Lozère, à Florac, à Banassac et Intermarché. Et puis, je travaille avec 2 magasins qui sont hôtels à Saint-Rémy-de-Provence, qui m'achètent le miel de lavande. Et je travaille avec un magasin dans le sud qui m'achète énormément du miel de lavande. Et quand j'ai des plus, je vends en gros, né, en quantité. Et après, je vends en détail. Je fais en sorte, parce que comme je viens de m'installer, on fait beaucoup d'investissements et le revenu, c'est très faible. Et donc, il faut que je vende. Et je travaille, j'ai 2 enfants, j'ai une vie aussi. Donc, il faut que je vende. Mais majoritairement, je vends au Intermarché, à Sainte-Chélie, à Banassac et à Florac. Aussi, pendant la saison, j'ai fait le marché de Saint-Enimie, qui c'est très intéressant. Il y a beaucoup de passages d'étrangers, de touristes, globalement. Et j'ai un petit avantage qui souvent vient des gens hollandais, même d'allemands, même d'américains que j'ai eu, même d'une brésilienne très connue au Brésil, qui sont passées ma journée. Donc j'ai l'opportunité de pouvoir parler parce que je parle un petit peu du français que j'ai appris à la rue. Hein. Je suis jamais allé à l'école. En revanche, l'anglais, je suis allé en école. J'ai vécu 2 ans aux États-Unis et j'ai vécu beaucoup du temps en Angleterre. Mais le français, c'est pas facile. Hein. J'ai beaucoup du mal. J'ai l'accent que je garde, que c'est ma racine. J'adore celui-là. Et le marché de Saint-Denis, je trouve que c'est un très bon marché, que j'ai fait beaucoup de connaissances territoriales. Les gens, ils commencent à savoir qui je suis. Ça me permet aussi de vendre parce qu'ils ont une belle dynamique, surtout au début jusqu'à la fin, avant le 15, ils ont une belle dynamique. J'espère que cette année encore, ça va développer encore plus parce qu'apparemment, il y aura de musique, du concert, il y aura autre dynamique, il y aura une jeunesse qui arrive. Et ça, pour moi, je trouve que c'est merveilleux, une ouverture, une rentrée, une sortie du territoire. Lieu de laisser enfermer la Lozère, qui est un pays magnifique. Hein. Les gens qui viennent d'extérieur, chaque fois quand je parle, tout le monde me dit c'est génial ici, la verdure, les animaux, tout ça, et on ne se rend pas compte. Hein. Nous habitons dans un parc national, très très beau, une zone de montagne, les gens très différents et ma culture magnifique.
Est-ce que vous travaillez seul avec vos abeilles ou vous êtes en collaboration avec d'autres personnes? Comment vous fonctionnez là-dessus?
Selon l'étape de l'année. Par exemple, au début de l'année que j'ai fait des élevages de rennes, j'ai travaillé avec mon copain, moi, qui s'appelle Nicolas Lefebvre, c'est un grand apiculteur aussi. Et il m'apprend énormément de choses et on s'entraide. Et puis le moment des transhumances, que tout le monde, à peu près, fait des transhumances tout seul, et je transhume chaque fois minimum 40 à 45 ruches. Et donc, majoritairement, j'ai travaillé tout seul. Et des fois, j'ai un ami qui vient m'aider ou un copain qui vient m'aider. Il y a toujours quoi, une aide entre nous.
Comment vous êtes implanté dans le territoire lozère? Vous collaborez avec d'autres personnes localement, d'autres agriculteurs dans d'autres milieux,
Oui, j'ai mon copain qui m'a formé. Lui, il est lozérien. Il m'expliquait à peu près où vous allez, où que tu dois pas aller, les fleurs. Il est un grand maître. Prise à biodiversité d'un territoire et ailleurs. J'ai des connaissances avec aussi un grand apiculteur qui est déjà en retraite, qui s'appelle Philippe Thomas, du Pont de Montvert. Et peu à peu, je suis une personne sociable, né? Comme j'ai dit, je suis brésilien, je parle, je demande d'aide et je n'ai pas d'honte à demander. Parce que quand tu ne connais pas et tu n'as pas d'ici, tu n'as pas de famille, c'est difficile. Nos débuts, le jeune ne te connaît pas, donc qu'est-ce que tu veux, que tu ne veux pas, est-ce qu'il va rester? Mais aujourd'hui, j'ai un peu de connaissances et les portes sont plutôt ouvertes pour moi et je suis très content de ça.
On voit derrière vous beaucoup de cadres pour vos ruches. Vous les faites vous-même, vos ruches, vous les faites vous-même.
Je l'achète. En fait, les cadres, j'ai déjà acheté, déjà monté, parce que j'ai pas beaucoup de place pour monter. J'ai des enfants qui vont venir l'hiver aussi. Et du coup, j'achète les cadres montés et les ruches, j'achète un kit. C'est-à-dire que je les monte, je perce, je remonte tout, fais la peinture, qu'ils soient moins chers. Ça, c'est mon travail d'hiver. Et du coup, j'achète une boîte qui s'appelle La Montagne Noire à Carcassonne, côté de Carcassonne, en bas dans le sud.
Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir apiculteur? Vous y avez peut-être déjà un peu répondu, mais...
En fait, l'apiculture, la première part, c'est que j'ai voulu faire un grand changement de vie. Bien évidemment, comme je viens d'une famille pauvre, il faut travailler. Ma base de ma famille, c'est le travail. En venant à Lozère, qui n'a encore pas cette dynamique du travail et tout ça, j'ai eu la chance de faire connaissance, encore une fois, avec un grand apiculteur. Et lui, il me fait connaître le monde des abeilles. Et comme je suis une personne plutôt organisée, il y a une organisation dans les colonies d'abeilles. Et peu à peu, j'ai commencé à prendre goût de voir les abeilles, comment ça marche, de toucher les abeilles, voir. Et ça a commencé à fasciner de plus en plus. où j'ai commencé à voir des lectures apicoles. Et de plus en plus, j'ai commencé à savoir un petit peu, d'avoir des connaissances. Et toujours, je suis très curieux de savoir ce qui se passe. Jusqu'à un jour, j'ai dit, bon, tiens, je vais faire une école, je vais demander. J'ai passé beaucoup de temps à étudier parce que vous sentez dans mon accent que je ne suis pas français. Il fallait passer maths et français, tout ça. J'ai réussi de bonnes notes pour entrer dans l'école apicole. J'ai réussi à passer. J'ai eu le diplôme apicole pendant... J'ai fait l'école pendant quasiment un an. Des stages, les transhumances, tout ça. Mais la technique que j'ai appris avec mon maître de stage, avec un ami qui est Nicolas Lefebvre, en demandant à Philippe Thomas, demandant des réunions apicoles avec le syndicat, avec l'ADA, et le gens m'expliquaient. Je faisais des bêtises, je note, j'améliore de l'année d'après, et peu à peu, j'ai rentré de cela. Aujourd'hui, je suis très content qu'aujourd'hui, je passe quasiment de 300 colonies, on y va dire. Bien évidemment, selon la saison, l'année, ça commence à baisser le nombre, qu'on commence à supprimer des ruches faibles, des ruches qui ne marchent pas. C'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Et dans le monde apicole, j'ai découvert beaucoup de choses qui c'est la vie en commun avec des abeilles, surtout la nature. Vous voyez, vous avez plus de temps à observer. Notre temps de récolte, tout ça, c'est très chronophage. Il faut que je vais vite et je peux travailler en 2 jours, quasiment 30 heures.
Et 300 colonies d'abeilles, ça représente quelle quantité de miel?
Normalement, j'ai 300 colonies. En revanche, en production, j'ai à peu près 230 quelque chose, parce que je n'ai pas assez de hausse. En fait, j'ai fait beaucoup plus. Cette année, j'ai un problème de riche, on va dire. J'ai fait beaucoup plus de ça. Et tout ce qui soit faible, qui ne me convient pas, je le supprime dans le cheptel, je vais avec un autre. C'est-à-dire que j'ai toujours un nombre plus important de colonies, et le nombre moins important, on va dire, de colonies pour production. Donc, je travaille colonies, on va dire, en réserve. Si j'ai un problème, cette colonie de réserve, elle va devenir une colonie de production s'il y a un problème avec les colonies de production.
C'est quoi les majeurs problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, que ce soit dans votre entreprise ou avec les problèmes que subissent les abeilles au quotidien?
Le problème des abeilles, je pense que c'est globalement quelque chose que tout le monde est en train de sentir. Le changement climatique, les finances. Aujourd'hui, c'est très difficile à trouver un terrain pour s'installer. J'ai aussi 2 enfants qui vont venir, donc je ne peux pas aller n'importe où. Il faut que ce soit quand même au côté d'école, tout ça. Donc des choses personnelles, la réalité personnelle. Niveau abeilles, si aujourd'hui on ne peut pas dire que telle date ça va mieler pour avoir du miel, parce que nous avons des intempéries au moment qui normalement fait chaud, il y a du vent au moment qu'on n'a pas. Et donc le problème majeur pour moi, c'est le changement climatique. Des fois fait hyper chaud, par exemple l'année dernière nous avons eu des températures qu'on ne connaissait pas. Pas beaucoup de pluie, surtout. Il y a du moment qui pleut énormément et vice-versa. Mais ça, c'est global. On sent de plus en plus. Et au niveau personnel, au niveau apiculteur, c'est la finance, né? Parce que l'économie, je pense, qui va pas très, très bien. Et il y a une dynamique qui est emploi, d'accord, mais niveau social, ça devient difficile. Le miel, ça reste toujours un produit, entre guillemets, de luxe. Ça te dit que c'est assez cher pour ma famille et tout ça. Donc, on fait un très bon miel de qualité. Ici en Lozère, sans pesticides, tout ça. Normalement, c'est une très bonne qualité et on fait analyser tout ça. Mais souvent, c'est la météo qui nous embête au niveau apicole. Et niveau personnel, c'est le coût d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus cher. La vie, normalement, c'est très difficile.
Et la météo, le changement climatique, ça va beaucoup du coup affecter la production de miel, mais ça va aussi affecter les ruches en elles-mêmes. Est-ce qu'elles risquent de mourir, de disparaître, vos abeilles? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous avez des grandes quantités d'abeilles qui disparaissent à un point donné, à un moment donné?
J'ai eu une année, en 2020, c'est-à-dire que j'ai des ruches qui étaient du côté de Cévennes. Peut-être c'est des maladies entre les abeilles. J'ai eu un moment de famine, mais comme je n'ai pas beaucoup, donc je reste toujours à derrière pour faire un nourrissement qui c'est pas vraiment écolo. On travaille avec du sirop, hein, on peut pas cacher ça. Et du coup, j'ai pas personnellement pas beaucoup de pertes. Jusqu'à maintenant, j'ai pas beaucoup de pertes. J'ai eu des pertes importantes ciblées dans un seul emplacement. C'est-à-dire que j'avais 45 colonies. Et peu à peu, ça a commencé à achever, que quand je suis descendu d'un lugar, il ne me restait que 8 colonies. Ça te dit que j'ai eu une grande perte, mais encore une fois, c'était vraiment un emplacement. Il y a beaucoup de gens qui disent que les gens ne traitent pas à côté parce qu'arrive au moment de la saison, il y a énormément de colonies autour, il y a énormément de gens, on ne sait pas comme les gens traitent ces colonies, donc il faut traiter, il faut rester derrière. On ne peut pas non plus généraliser, quoi.
Vous avez déjà eu des conflits avec des agriculteurs proches de vos colonies ou des gens qui se plaignent de vos colonies ou vous qui avez un problème avec je sais pas, un traitement dans un champ voisin, quelque chose?
Pour l'instant, non. La Lozère, nous sommes très bien ici là. Comme c'est une zone agricole, les gens y comprennent. Le problème, entre guillemets, que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les abeilles. Donc je préviens toujours mes propriétaires, écoute, j'arrive parce qu'il y a beaucoup, ils ont peur, ils peuvent avoir l'allergie, ils n'aiment pas se faire piquer, tout ça. Problème majeur avec les gens, personnellement, je n'ai jamais eu. Je m'entends plutôt bien globalement avec tout le monde, je respecte, je me fais respecter, et je pense que c'est vraiment la chose commune pour tout le monde. Si tout le monde se respecte, et je ne fais pas plus que travailler et manger. Hein. Donc j'arrive, je dis la vérité.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait un bon miel?
Le bon miel, je pense déjà avoir la bonne zone. Donc la bonne zone, la Lozère. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des apiculteurs qui font beaucoup, beaucoup de routes. Où j'avais mon formateur qui habitait dans le Var, à Toulon exactement. Et lui, il est allé jusqu'à quasiment Grenoble, dépasser Grenoble pour faire un miel. La Lozère, nous avons zone de montagne, nous avons le miel du châtaignier, nous avons monofleureux qui c'est le miel de Cosse, nous avons toutes les fleurs qui c'est le miel de Cévennes, avec un goût particulier qui a un peu de châtaignier dedans, il n'y a pas beaucoup de monde. Pas loin d'ici, à une heure et demie de route, j'ai pour faire de temps en temps le printemps, le miel du printemps. Je peux faire aussi le miel d'acacia. Par exemple, l'année dernière, j'ai réussi à faire. J'espère que cette année, j'arrive à faire. Donc, j'ai un vieux camion, hein, un ancien camion. Donc, je ne veux pas trop loin non plus parce que niveau mécanique. Donc, je reste toujours dans la zone de 2 heures et demie de route de chez moi. Donc, on peut faire, comme encore une fois, du très bon miel. Diversifier du miel pas trop loin, c'est-à-dire que j'ai fait 6 gammes de miel, c'est-à-dire que j'ai fait de toutes fleurs de Cévennes, j'ai fait le châtaignier, j'ai fait le miel de montagne, j'ai fait le lavande dans le gar, bien évidemment, j'ai pu faire même le printemps dans le gar et l'acacia, donc c'est pas loin la zone de chez moi, donc c'est 2 heures et demie, hein, pas plus.
Une question sur les ruches en soi, c'est-à-dire comment, quand vous avez des pertes ou que vous voulez faire des nouvelles ruches, comment vous remplissez une ruche d'abeilles? Vous allez chercher les abeilles ou vous les faites se reproduire?
Là, c'est la chose que j'aime le plus au niveau apicole. C'est-à-dire que j'ai appris à faire les élevages. C'est-à-dire que j'ai appris, c'est moi, on va dire, la base d'un apiculteur. Il faut que vous soyez autonome à garder son cheptel, le nombre de ruches. Donc j'achète des souches, hein, la loi de Mendel, je garde la souche, je prends ses larves, Je les fais introduire. C'est bon, c'est un peu technique, c'est long à expliquer, mais les apiculteurs comprennent. Donc, j'ai fait des cellules. Et du coup, j'ai pris de mes ruches plus grosses que j'ai pu se diviser. C'est-à-dire qu'en divisant, c'est qu'on doit ruches la plus de 6 cadres, 8 cadres, je peux la diviser. Je prends de 3 cadres du Kouban, je prends de cela, je la ferme, je ramène à 3 km d'où j'ai pris cela. Et 10 jours après, je viens avec mes cellules où j'ai fait de nouvelles reines, les reines d'année, très dynamiques. Mais ça, c'est encore une fois, c'est la chose la plus technique dans l'apiculture. Et la chose que j'aime plus, qui vous ouvre énormément des abeilles, vous voyez exactement, et vous gardez vraiment les yeux. Et l'apiculture, comme j'aime beaucoup écouter, j'ai entendu un gars dire, l'apiculture, c'est beaucoup d'observation. Donc, vous regardez l'entrée, s'il y a du pollen, c'est une bonne dynamique, et vous regardez l'entrée, le volume des abeilles, sa façon d'être, tenir le cadre. Et donc ça, c'est beaucoup d'observations qu'on prend dans le tas. Tous les jours, on regarde le fait d'avoir l'opportunité de travailler avec des grands apiculteurs qui avaient énormément de colonies. Et donc ça me donnait l'opportunité d'ouvrir, de regarder, d'apprendre, d'écouter. Et donc ça m'a ouvert beaucoup de portes pour le futur. Voilà, moi j'ai deux formats de ruches. J'ai un format d'Adam où je viens d'avoir, là j'ai une quarantaine à peu près ça, de ruches d'Adam que j'ai commencé à remplir cette année. Avant j'ai travaillé avec un seul format, c'est un format long straw. Une, c'est plus facile et plus légère de transhumer, comme je travaille souvent tout seul, donc il faut que je porte au bras, j'ai pas de grue, ou rien du tout. Donc c'est-à-dire que c'est un format que ça me convenait, j'ai appris à travailler, et pour moi c'est plus facile. En revanche, là maintenant, comme je commence à augmenter mon comme cheptel, et je vends maintenant des essaims, donc je parti un peu pour les formats long straw, pour développer les deux gammes du format. Différence entre les deux formats, c'est le volume, c'est-à-dire que long straw c'est plus lourd, il y a un volume plus important d'abeilles, il y a un volume plus important du miel, né? Normalement ils ont plus de place, ils ont beaucoup plus de réserves et tout ça. Qui le format long straw, la légende, né? Les gens ils disent que c'est que pour les professionnels. Mais je connais pas mal de très très beaux et gros professionnels qui travaillent avec le dedans. Moi, personnellement, je travaille plutôt avec long straw.
Ça pèse combien, plein et vide, une ruche?
Vide, je ne peux pas vous dire exactement. Je suis persuadé, c'est long d'où elles viennent. Un jour, j'ai un souvenir que je suis allé faire ma transhumance avec un copain à moi. Et on a pris ma ruche d'Adam. On n'a pas arrivé vraiment portée à deux, et elle était minimum 50 kg, quoi, selon les années. Il y a d'autres années qui sont très légères, qui n'ont pas de réserve, tout ça. Mais environ, c'est entre un bon 30 kg, 35 kg, selon le moment de la saison. Aujourd'hui, j'ai même l'opportunité, comme je commence à avoir un volume assez important des colonies, tout ça. Donc, mes extractions du miel, ça me donne aussi la cire, où je peux faire mes feuilles de cire moi-même et tout ça. Arrive au moment de la saison, normalement on fait le mois d'octobre, je fonds la cire, je nettoie, né, je l'utilise pour que ce soit plus propre, ou je fais des feuilles à gaufrer. C'est là que je vais utiliser dans les cadres, quoi. Et en utilisant ça dans les cadres, je suis quasiment sûr que ma cire vient de ma exploitation. Normalement, on n'a pas beaucoup de problèmes au niveau pesticide parce que je n'utilise pas du truc mauvais pour les abeilles. Et ça aussi, niveau financier, ça m'aide beaucoup parce que le coût du kilo, je pense que j'ai regardé la dernière fois, c'était quasiment 21 euros le kilo selon le magasin que vous allez. Et on ne connaissait pas du tout la procédure, ça là, c'est de chez moi, c'est une cire très claire, vous pouvez regarder. Et c'est très bien, les abeilles tirent bien, les abeilles elles se portent bien. Qui j'ai déjà eu du mauvais cas, qui j'ai acheté au début du cire ailleurs. Et ce moment que j'ai acheté du cire, les abeilles elles avaient du mal à garder cette cire et de tirer. J'ai trouvé qu'elles n'aimaient pas. Et je ne peux pas vous dire que c'est fait d'aimer ou que c'était mauvaise la cire, mais je trouve que ça m'optimisait beaucoup, beaucoup plus. Et au niveau financier, c'est beaucoup plus avantageux aussi.
Comment c'est fabriqué? C'est moulé ou c'est...
Écoute, je ne sais pas exactement. Je sais que je fonds en bloc. D'accord. On doit envoyer un gaufreur qui fait la feuille. Et là, il les fond encore. Ils passent dans une machine comme une imprimante, on va dire ça, et ils sortent des petites feuilles comme cela. Le processus, je ne connais pas parce que je n'ai jamais allé dans un magasin ou dans une industrie comme cela, mais je sais que c'est à peu près ça. Le bloc, il devient cette petite feuille. Ça fait 2 ans que moi et mes copains ont fait un traitement qui sont des apiculteurs en bio. Qu'ils font, c'est l'acide oxalique par sublimation. C'est-à-dire qu'ils ont un appareil qui s'appelle Sublimox. Il monte une température, je ne sais pas combien, et donc du coup, ça me permet aussi de faire un traitement contre le varroa, qui c'est une maladie, né, c'est un carien qui a des colonies, qui a un gros problème avec cela. Et j'ai fait un protocole différent, c'est-à-dire que j'ai fait des essais. Quand je vois qu'ils pondent, qu'il y a des couvents ouverts, j'utilise le Sublimox qui j'ai une optimisation du traitement. Nous ne sommes pas à l'abri, mais il fait 2 ans, 3 ans qu'on travaille comme ça et ça marche super bien.
Et je souhaite un grand merci à Alexandre Ribeiro pour nous avoir accordé cette interview.